Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Le programme pour ce soir sera commencé par le journal, suivi de commentaires, l'histoire d'aujourd'hui et la mise au point. Vous pouvez également écouter le magazine culturel, l'apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal, suivi de commentaires.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal. Et on commence avec les titres. La ministre Susi Pujiasuti interdit les étrangers de capturer les poissons dans les eaux indonésiennes. La ministre des Affaires étrangères et de la Pêche, Madame Susi Pujiasuti, veut toutes les parties prenantes se réunissent. Les investisseurs chinois construiront l'industrie sidérurgique à Palu. ASITA propose des améliorations du système commercial du tourisme Indonésie-Chine. On espère l'incitation pour encourager l'industrie du textile. L'Indonésie va pénétrer le marché du café de l'Europe du Sud-Est. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. La ministre indonésienne de la Pêche et de la Mer, Madame Susi Pujiasuti, interdit les entreprises qui opèrent en Indonésie sous la forme d'investissement étranger direct de capturer le poisson dans les eaux indonésiennes. C'est ce qu'a affirmé la ministre Susi Pujiasuti répondant à la communauté économique de l'ASEAN qui ont été entrées en Indonésie et a propagé à tous les domaines. Lors du dialogue avec un certain nombre de pêcheurs, au port de débarquement du poisson à Tanau Kupang, Nusa Tenggara Est. La ministre Susi a affirmé également, bien que CEA est propagé à tous les domaines, mais pour le secteur de la mer et de la pêche, il ne donnera pas une chance aux étrangers. Cela ne signifie pas que la partie étrangère ne soit pas du tout autorisée à investir dans le domaine de la pêche. Ils peuvent investir en Indonésie, mais seulement en termes de gestion, comme les usines de glace, la transformation du poisson et de certaines gestions relatives aux affaires maritimes et à la pêche. La ministre des Affaires maritimes et de la pêche, Mme Susi Pujiasuti, veut toutes les parties prenantes du secteur maritime et de la pêche dans ce pays se réunissent pour soutenir la vision du gouvernement. À l'ouverture du Forum d'investissement de la business marine et de la pêche à Jakarta lundi, elle a déclaré qu'il était important pour toutes les parties prenantes à unir et à égaliser le point de vue afin de développer le secteur de la maritime et de la pêche. Selon la ministre, aujourd'hui, beaucoup de régions ont rapporté l'augmentation de la production après l'éradication de la pêche illicite, comme à Sabang et à Aceh. Selon l'autre fonctionnaire de ce ministère, Nilanto Prabowo, le but principal du forum est de développer l'investissement économique dans 15 centres maritimes et de la pêche intégrée. Les investisseurs en provenance de Chine réaliseront ces investissements avec une valeur suffisamment pour construire l'industrie de l'acier dans la zone économique spéciale à Palu, Sulawesi centrale, dans un proche avenir. Le maire de Palu, M. Hidayat, a déclaré dimanche, le gouvernement de la ville et l'investisseur chinois ont rencontré et communiqué le plan d'investissement. Selon Hidayat, ces investisseurs ont besoin de terrains de la zone économique spéciale d'environ 150 hectares dans le district du nord de Palu et Tawaili. Il a ajouté que pour la première phase, il recruterait la main d'œuvre locale de 1000 personnes à être employées dans cette industrie. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. L'Association du Bureau de l'Agence de Voyage et du Tourisme, qui est membre de l'Association indonésienne des agences de voyage et de tourisme, ou ACITA, a proposé de régler le système commercial du tourisme, notamment entre l'Indonésie et la Chine, de sorte qu'il est plus propice. Le président du conseil central de ACITA, M. Asnawi Bahar, a déclaré dimanche à Jakarta, plus de touristes étrangers visitant l'Indonésie étant l'un des indicateurs de la réussite du tourisme. Cependant, la Chine est un grand marché potentiel. Asnawi Bahar a dit que sa partie avait proposé quatre questions fondamentales pour améliorer le système commercial du tourisme pour être plus propice pour les hommes d'affaires industriels. Quatre propositions sont augmenter le nombre d'arrivées des touristes, faire le système commercial du tourisme, développer des occasions d'affaires des agences de voyage et d'établir de bonnes relations avec les pays d'origine des touristes comme la Chine. Le gouvernement, par le ministère de l'Industrie, a promis de donner incitation pour l'industrie de textile et de produits textiles afin de concurrencer sur la chaîne internationale. Les incitations liées au règlement du ministère des Finances qui donne l'incitation dans le domaine du textile. Le ministre de l'Industrie, M. Saleh Husin, a déclaré que les règles du ministère des Finances pouvaient encourager les entreprises dans l'industrie du textile afin qu'ils puissent rivaliser avec les pays voisins, y compris la Malaisie, la Thaïlande et le Vietnam. L'Indonésie veut maximiser l'Europe du Sud-Est en tant que marché pour les produits de café de qualité supérieure de l'Indonésie. L'ambassade d'Indonésie en Croatie a tenu une promotion de café récemment à l'ambassade d'Indonésie à Zagreb et l'un des fameux cafés dans le centre de Zagreb. L'autre fonctionnaire de l'ambassade d'Indonésie à Zagreb, M. Wijoseno Sastro Atmijoyo, cité par Republika le dimanche, a expliqué que le nombreux types de café indonésiens tels que le café Gayo à Aceh, le café Solok à Sumatra, le café Toraja à Sulawesi, le café Flores et le café Malabar peuvent attirer un certain nombre de torréfacteurs. L'industrie du café et l'importateur de la Croatie. Selon Wijoseno Sastro Atmijoyo, les cafés indonésiens peuvent être un succès sur le marché de l'Europe du Sud-Est et cela peut être vu d'un grand intérêt pendant la promotion et le grand potentiel du tourisme croate qui a atteint 12 millions de personnes en 2015. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Bonsoir, chers amis. Merci d'être fidèles à notre antenne, la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « L'importance de garder l'harmonie religieuse ». La province de Bali a accueilli la deuxième conférence nationale du Forum pour l'harmonie religieuse, ou FKUB, qui a eu lieu le samedi 11 juin 2016. La conférence sur le thème « Maintenir l'harmonie religieuse pour l'intégrité de la République unitaire d'Indonésie » a été assisté par le ministre des Affaires religieuses, M. Lukman Hakim, et plus de 250 responsables du forum dans toute l'Indonésie. L'harmonie interreligieuse est une condition sociale dans laquelle tous les groupes religieux peuvent coexister ensemble sans compromettre le droit fondamental de chacun d'exercer ses fonctions religieuses. L'harmonie interreligieuse et de créer un état d'harmonie sans aucun conflit entre leurs communautés religieuses respectives, entre les différents groupes religieux, les uns avec les autres, entre adeptes d'une religion avec d'autres religions, et entre les communautés religieuses et le gouvernement. Mais souvent, le gouvernement et la communauté religieuse elle-même oublient ces principes, de sorte qu'il y avait un conflit qui a conduit à la désintégration. L'hypnose est un pays avec des diverses religions et cette différence parfois provoque disharmonie et a le potentiel de provoquer la désunion. Il y a encore des conflits fréquents dans plusieurs régions en Indonésie, comme par exemple le conflit de construction de lieux de culte. Selon les résultats de l'enquête nationale sur l'harmonie religieuse menée par le ministère des Affaires religieuses en 2015, la moyenne de l'harmonie religieuse nationale atteint 75,36 dans la gamme de 0 jusqu'à 100. Ce chiffre met l'Indonésie dans la catégorie de grande harmonie avec le fonctionnement des dimensions de l'harmonie telles que la tolérance, l'égalité et la coopération de manière significative. De maintenir la tolérance pour créer l'harmonie religieuse est très important, surtout dans le mois de Ramadan. On a besoin de la tolérance élevée parmi les musulmans et avec l'autre religion. Ainsi, on peut créer l'atmosphère pacifique, sécuritaire et respectueuse mutuellement. C'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 13 juin 1921, la première lutte de l'armée palestinienne. Pour la première fois, l'armée palestinienne a lutté contre le gouvernement colonial britannique le 13 juin 1921, qui a duré pendant des années. Le colonialisme britannique a montré la réaction des Palestiniens sur les politiques britanniques dans cette région. Comme indiqué dans l'accord de Balfour, le Royaume-Uni se déclare le principal soutien des colons juifs dans les territoires palestiniens jusqu'à ce que la formation d'un État d'Israël là-bas. Depuis l'application de l'accord de Balfour, le nombre de juifs dans les territoires palestiniens a augmenté rapidement d'environ 35 000 personnes en 1923 et à la fin des années 40, a atteint plus de 600 000. Ainsi, avant la création de l'État illégal d'Israël en 1948, le nombre de juifs dans les territoires palestiniens a atteint un tiers du nombre total de résidents palestiniens qui occupent la terre de Palestine. Le 13 juin 1944, missiles de la terre à la terre utilisés dans la guerre. Pour la première fois, des missiles à longue portée et utilisés dans la Seconde Guerre mondiale le 13 juin 1944. Le missile nommé Phi-1 a été tiré par l'armée de l'Allemagne nazie pour la région cible de l'Angleterre. Auparavant, l'Allemagne a bombardé la région Angleterre avec des missiles tirés à partir des avions de combat. Cette opération pour l'armée allemande passait un coût plus élevé. Pour cette raison, l'armée allemande a finalement produit des missiles de sol-sol et après la guerre, les pays du monde émulent et développent ce type de missiles. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers auditeurs, voici donc la mise au point et pour le titre, le gouvernement indonésien accélère la construction d'une centrale électrique. Le gouvernement indonésien continue à s'efforcer à l'accélération de la construction des infrastructures dans le pays. L'une des accélérations est de construire les centrales à vapeur. Pour l'île de Sumatra, 6 autres centrales électriques qui ont été inaugurées sont Mobile Power Plant à Bangka Belitung, Paya Pasir Medan, Nias, Aoukhdouri Riau et Tarahan Lampung. Auparavant, le président Joko Widodo a également inauguré la construction d'une centrale à vapeur au début de juin dans plusieurs provinces. L'agence de Nouvelle Antara a rapporté que le président Joko Widodo, au cours d'une visite de travail à Mataram, en province de Nusa Tenggara Ouest, samedi, a déclaré que le gouvernement indonésien allait construire plusieurs centrales pour éviter le mauvais état de la croissance économique dans la région. Lors d'observer la construction de la centrale gazeuse et à vapeur d'unité 2 Jaranjang à Mataram, Nusa Tenggara Ouest, il a dit qu'il n'y avait pas de croissance économique dans les zones qui ne sont pas anticipées, qui peuvent conduire à la diminution de l'activité économique dans cette région. Le président Joko Widodo a ajouté que le gouvernement continuait également de prêter attention à un certain nombre de régions qui manquent encore d'approvisionnement en électricité. Si la croissance économique n'est pas suivie par la puissance électrique supplémentaire, le développement dans les zones vulnérables est entravé. Le président Jokowi a également déclaré qu'avec l'augmentation de l'approvisionnement de l'électricité, il peut soutenir les besoins en énergie pour les petites et micro-entreprises dans les collectivités rurales et d'améliorer l'éducation des enfants. Il a également ajouté que le gouvernement poursuit l'énergie électrique pour alimenter les besoins de 35 000 MW pour l'industrie et le peuple de l'Indonésie et le suivi de la pénurie d'approvisionnement en électricité en continuant à construire des centrales électriques dans un certain nombre de régions. Plus tôt, le 9 juin 2016, le président Joko Widodo a assisté à la signature de 6 accords de la mise en œuvre des projets d'infrastructures stratégiques nationaux et des projets prioritaires. Le communiqué de presse du ministère de l'Économie a rapporté qu'à cette occasion, le président Joko Widodo a révélé que la signature des 6 accords était une preuve claire des efforts du gouvernement dans la satisfaction des intérêts du peuple. La signature des 6 projets d'infrastructures stratégiques nationaux et les projets prioritaires se compose de la clôture financière du projet de la centrale à vapeur à Batang Central Java qui obtient la garantie du gouvernement à travers PT Penjamin Infrastructure Indonesia et 5 projets des autoroutes. 3 d'entre eux obtiennent aussi la garantie du gouvernement. Répondant à ces projets, le président directeur de PT Penjamin Infrastructure Indonesia, Cynthia Rusli, cité par business.com, a dit que dans ce contrat, sa partie garantit 6 projets prioritaires afin d'accélérer le programme de développement de l'infrastructure nationale. La garantie fournie vise à éviter les investisseurs privés de divers risques dès le moment de faire la construction à risque politique qui pourrait retarder le projet. Serviteur, c'était la mise au point pour ce soir.
La ministre indonésienne de la Pêche et de la Mer, Madame Susi Pujasuti, interdit les entreprises qui opèrent en Indonésie sous la forme d'investissement étranger direct de capturer le poisson dans les eaux indonésiennes. C'est ce qu'a affirmé la ministre Susi Pujasuti répondant à la communauté économique de l'ASEAN qui ont été entrées en Indonésie et a propagé à tous les domaines. Lors du dialogue avec un certain nombre de pêcheurs au port de débarquement du poisson à Tenau Kupang, Nusa Tenggara Est, la ministre Susi a affirmé également, bien que CEA est propagé à tous les domaines, mais pour le secteur de la mer et de la pêche, il ne donnera pas une chance aux étrangères. Cela ne signifie pas que la partie étrangère ne soit pas du tout autorisée à investir dans le domaine de la pêche. Ils peuvent investir en Indonésie, mais seulement en termes de gestion, comme les usines de glace, la transformation de poissons et de certaines gestions relatives aux affaires maritimes et à la pêche. La ministre des Affaires maritimes et de la pêche, Madame Susi Pujasuti, veut toutes les parties prenantes du secteur maritime et de la pêche dans ce pays se réunissent pour soutenir la vision du gouvernement. À l'ouverture du Forum d'investissement de la business marine et de la pêche à Jakarta lundi, Elle a déclaré qu'il était important pour toutes les parties prenantes à unir et à égaliser le point de vue afin de développer le secteur de la maritime et de la pêche. Selon la ministre, aujourd'hui, beaucoup de régions ont rapporté l'augmentation de la production après l'éradication de la pêche illicite, comme à Sabang et à Aceh. Selon le fonctionnaire de ce ministère, Nilanto Prabowo, le but principal du forum est de développer l'investissement économique dans 15 centres maritimes et de la pêche intégrée. Les investisseurs en provenance de Chine réaliseront ces investissements avec une valeur suffisante pour construire l'industrie de l'acier dans la zone économique spéciale à Palu, Sulawesi centrale, dans un proche avenir. Le maire de Palu, M. Hidayat, a déclaré dimanche, le gouvernement de la ville et l'investisseur chinois ont rencontré et communiqué le plan d'investissement. Selon Hidayat, ces investisseurs ont besoin de terrains de la zone économique spéciale d'environ 150 hectares dans le district du nord de Palu et Taweli. Il a ajouté que pour la première phase, il recruterait la main d'œuvre locale de 1000 personnes à être employées dans cette industrie. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. L'Association du Bureau de l'Agent de Voyage et du Tourisme, qui est membre de l'Association indonésienne des agences de voyage et de tourisme, ou ACITA, a proposé de régler le système commercial du tourisme, notamment entre l'Indonésie et la Chine, de sorte qu'il est plus propice. Le président du Conseil central de ACITA, M. Asnawi Bahar, a déclaré dimanche à Jakarta, plus de touristes étrangers visitant l'Indonésie étant l'un des indicateurs de la réussite du tourisme. Cependant, la Chine est un grand marché potentiel. Asnawi Bahar a dit que sa partie avait proposé quatre questions fondamentales pour améliorer le système commercial du tourisme pour être plus propice pour les hommes d'affaires industriels. Quatre propositions sont augmenter le nombre d'arrivées des touristes, faire le système commercial du tourisme, développer des occasions d'affaires des agences de voyage et d'établir de bonnes relations avec les pays d'origine des touristes comme la Chine. Le gouvernement, par le ministère de l'Industrie, a promis de donner incitation pour l'industrie de textile et de produits textiles afin de concurrencer sur la chaîne internationale. Les incitations liées au règlement du ministère des Finances qui donne l'incitation dans le domaine du textile. Le ministre de l'Industrie, M. Saleh Hussein, a déclaré que les règles du ministère des Finances pouvaient encourager les entreprises dans l'industrie du textile afin qu'ils puissent rivaliser avec les pays voisins, y compris la Malaisie, la Thaïlande et le Vietnam. L'Indonésie veut maximiser l'Europe du Sud-Est en tant que marché pour les produits de café de qualité supérieure de l'Indonésie. L'ambassade d'Indonésie en Croatie a tenu une promotion de café récemment à l'ambassade d'Indonésie à Zagreb et l'un des fameux cafés dans le centre de Zagreb. L'autre fonctionnaire de l'ambassade d'Indonésie à Zagreb, M. Wijoseno Sastro Atmijoyo, cité par Republika le dimanche, a expliqué que le nombreux types de café indonésien, tels que le café Gayo à Aceh, le café Solok à Sumatra, le café Toraja à Sulawesi, le café Flores et le café Malabar, peuvent attirer un certain nombre de torréfacteurs. L'industrie du café et l'importateur de la Croatie. Selon Wijoseno Sastro Atmijoyo, les cafés indonésiens peuvent être un succès sur le marché de l'Europe du Sud-Est et cela peut être vu d'un grand intérêt pendant la promotion et le grand potentiel du tourisme croate qui a atteint 12 millions de personnes en 2015. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésia, Service International, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers auditeurs. C'est un plaisir de vous rencontrer à nouveau dans le magazine culturel en programme quotidien sur le tourisme, l'alimentation ainsi que les arts et la culture de diverses régions en Indonésie. Dans l'édition d'aujourd'hui, je vais vous inviter à connaître le fruit frais, à savoir timun suri. Chers auditeurs, lors du jeûne, le corps manquera beaucoup de liquide parce que les musulmans mangent et boivent seulement une fois lors de l'iftar et une fois à l'aube. Dans de telles situations, le corps va manquer beaucoup de liquide. Par conséquent, lors de l'iftar, habituellement, nous voulons une boisson fraîche pour éliminer la déshydratation. Les fruits avec la haute teneur en eau est certainement très rafraîchissant. Timun suri ou cucumis sativus pourrait être le bon choix. Sa forme est ovale et la couleur jaune, blanche ou verte avec la texture de peau lisse. L'arôme est parfumé, la chair douce à la saveur sucrée. Timun suri est devenu l'un des fruits que nous pouvons fabriquer à une boisson fraîche. Grâce à la teneur en eau et le goût typique de la chair, n'importe quelle personne peut profiter de la sensation unique de fraîcheur de cette boisson. Serviteur, timun suri est facile à préparer. Pelez juste la peau et le coupez en morceaux. Mélangez timun suri avec du sirop et de la glace. La glace de timun suri est très appropriée pour être servie après une journée de jeûne. Le fruit avec le nom scientifique cucumis sativus est très facile à trouver au mois de Ramadan, tant aux vendeurs de fruits au bord de route ou au supermarché. Mais au-delà du mois de Ramadan, ce fruit n'est pas si populaire. Pourtant, timun suri n'est pas un fruit de saison, donc il peut être planté à tout moment. Mais parce que le niveau de vente a augmenté au cours du mois de Ramadan, les agriculteurs commencent généralement à le planter au cours des mois avant le Ramadan. Timun suri ou cucumis sativus contient beaucoup de vitamine A et de vitamine C pour rafraîchir le corps et restaurer l'endurance perdue après le jeûne. Ce fruit est également riche en fibres solubles qui peuvent nourrir les organes digestifs et aussi éviter la constipation et le cancer du côlon. Grâce à la teneur en eau et en fibres, timun suri est approprié pour détoxifier le corps. Alors, qu'attendez-vous? Ne pas oublier de profiter de la fraîcheur de timun suri lorsque vous visitez l'Indonésie, en particulier dans le mois de Ramadan. Chers auditrices et chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir avec le titre « Timun suri ». Demain, nous nous retrouverons avec un sujet plus intéressant encore. À bientôt!
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Comprendre et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Aller apprendre l'indonésien.
Bonsoir à tous, nous nous rencontrons de nouveau dans la rubrique Apprendre l'indonésien, un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et vous guide de parler indonésien. Le sujet aujourd'hui est membuat kolak bagian pertama ou préparer de la compote première partie. Tout d'abord, je vais vous introduire le vocabulaire et les expressions reliant au sujet d'aujourd'hui. Je vais prononcer deux fois et vous pouvez répéter après moi. Membuat, membuat, en français, faire ou préparer. Pulang kantor, en français, retourner du bureau. Mampir, mampir, en français, arrêter chez. Membeli, membeli, en français, acheter. Bahan-bahan, bahan-bahan, en français, ingrédient. Buka puasa, buka puasa, en français, iftar. Pisang, pisang, en français, banane. Ubi, ubi, en français, tubercule. Santan, santan, en français, lait de coco. Gula merah, en français, sucre blanc. Ensuite, je vous donne l'exemple de conversation ayant pour titre « Membuat kolak bagian pertama », soit « Préparer de la compote première partie ». Je vais prononcer lentement phrase par phrase, vous pouvez répéter après moi. Cette conversation est entre Marie A et Nita B au bureau. A. Apakah kamu langsung pulang ke rumah setelah pulang kantor? Apakah kamu langsung pulang ke rumah setelah pulang kantor? En français, est-ce que vous retournez directement chez vous du bureau? B. Tidak, saya mau mampir ke supermarket. Tidak, saya mau mampir ke supermarket. En français, non, je veux arrêter au supermarché. B. Saya mau membeli bahan-bahan untuk membuat kolak. Saya mau membeli bahan-bahan untuk membuat kolak. En français, je veux acheter les ingrédients pour préparer la compote. A. Apa itu kolak? Apa itu kolak? En français, qu'est-ce que c'est la compote? B. Kolak adalah makanan asal Indonesia yang berbahan dasar pisang atau ubi yang direbus dengan santan dan gula merah. Kolak adalah makanan asal Indonesia yang berbahan dasar pisang atau ubi yang direbus dengan santan dan gula merah. En français, la compote est une alimentation de l'Indonésie ayant la matière première, le banane ou le tubercule étant bouillé avec du lait de coco et le sucre blanc. B. Kolak biasanya disajikan untuk berbuka puasa. Kolak biasanya disajikan untuk berbuka puasa. En français, la compote est habituellement servie pour l'iftar. A. Saya ingin tahu cara membuat kolak. Saya ingin tahu cara membuat kolak. En français, je veux connaître le moyen de préparer la compote. A. Bolehkah saya ikut dengan kamu? Bolehkah saya ikut dengan kamu? En français, est-ce que je peux venir avec vous? B. Baiklah, ayo ikut saya. Baiklah, ayo ikut saya. En français, d'accord, allez avec moi. Bon, chers amis, c'était la rubrique Apprendre à l'Indonésien pour ce soir. Que cette rubrique soit utile. Merci de votre fidélité et votre attention. À demain.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Servi de Zamila Voix de l'Indonésie dans Katakolong de Mong, voici le magazine de musique édition de lundi. Et dans ce magazine, on vous présente de tel ou tel genre musical et musicien de l'Indonésie. Et pour ce soir, on vous introduit la chanteuse Lily Suryani. Bon, chers amis, comme le début de notre rencontre, allez encore écouter la première chanson de Lily Suryani intitulée « Ku telah berdua ». Bonne écoute.
Setiap waktu ku selalu berdua, di mana aku di situ pun dia, tetap ku selalu didampinginya, pujaanku yang tercinta. Janganlah memanggilku Nona, sebutanku kini. Kesana melihat kesini dengan nada penuh gembira mengarungi kisah hidupku ku teruskan bakti suciku. Kini nyonya untuk panggilanku hai kawan, karena ku telah berdua. Melihat kesana melihat kesini dengan nada penuh gembira mengarungi kisah hidupku ku teruskan bakti suciku.
Chers amis, la chanteuse Lily Suryani, elle est célèbre aux années 60. Elle est connue lors de la grande popularité de chanteuse Titi Puspa. Mais avec sa voix typique, ses chansons Gang Kelinci, Tiga Malam et Genjer Genjer sont très populaires à cette époque. Bon, chers amis, avant de continuer le magazine avec Lily Suryani, écoutez donc la deuxième chanson de Lily Suryani intitulée Gang Kelinci. Bonne écoute.
Jakarta, kota.
Servi des amis, Lili Suryani, elle a commencé sa carrière quand elle avait 12 ans. Elle était école primaire à Tepekong, Jakarta Central. Sa voix si haute qui est différente que les autres. Quand elle était au lycée de Budi Utomo, elle s'est présentée au palais. Comme l'adolescence, elle chante la chanson sundanais Chai Kopi. Elle est plus jeune au milieu de chanteurs et chanteuses comme Nin Lesmana, Mahsun Sutoto et Titi Puspa. C'est pourquoi le président Soekarno aime le style de Lili Suryani ainsi qu'elle est le plus proche que lui. En 1963, Lili Suryani, quand elle avait 15 ans, elle se présente dans la chaîne nationale TVRI. En même année, elle est allée au studio pour produire son album. Plus tard, son nom est de plus en plus célèbre, non seulement en Indonésie, mais jusqu'à Singapour, la Malaisie, la Thaïlande et les Philippines. Chers amis, c'était le magazine de musique avec la chanteuse Lili Suryani. Et avant de vous quitter, allez encore écouter deux dernières chansons de Lili Suryani, intitulées Air Mata et Tiga Malam. Merci de votre fidélité et attention. Bonne écoute et au revoir.
Ku titip berlina.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Radio République Indonésia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id. Vous êtes toujours avec La Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
Merci d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, vous avez écouté tout à l'heure des chansons indonésiennes Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonesia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta ou PO Box 1157 Jakarta 2011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.